l'identité en ligne, c'est le sujet de notre dossier. Alors, cette question de l'identité soulève au moins deux types de problèmes. Le premier est peut-être le plus évident. Qu'advient-il de l'identité de celui qui est présent sur le réseau ? Soit parce qu'il en est un usager, un intervenant sur des forums, qu'il est présent sur des réseaux sociaux, consommateur sur des sites d'achat en ligne, soit parce qu'il en est un personnage, c'est-à-dire que son activité réelle, son activité dans la vie réelle lui donne une existence sur le réseau, auquel cas on peut trouver des photos, des travaux, des vidéos, des notices biographiques, tout type de documents dont il n'est pas forcément responsable de la présence. Alors cette première manifestation de l'identité en ligne pose toute une série de questions, la traçabilité, dans quelle mesure devrais-je pouvoir maîtriser les traces que je laisse, volontairement ou involontairement sur le réseau, dans quelle mesure ces traces d'ailleurs peuvent-elles être utilisées contre mon gré, mais il y a aussi des questions plus positives, celles par exemple de la réputation numérique dont nous parlerons sans doute avec nos invités. Mais il y a aussi tout un deuxième pan de questions autour de l'identité en ligne, Thomas.
Oui, ce deuxième pan, c'est celui de l'identité qu'on choisit dans une certaine mesure sur le réseau, la représentation qu'on donne, qu'on se donne, par exemple à travers les avatars, ces images qui nous représentent dans les forums ou sur Second Life, ce réseau, cette seconde vie dont on parle beaucoup, cette question qui va avec celle du masque et de l'anonymat en ligne. Et pour aborder ces questions ce matin, avec nous, il y a Catherine Ramus, alias Albertine Meunier. Alors ça se complique déjà, puisqu'il y a deux noms pour une seule et même personne. Catherine Ramus travaille dans la veille Internet et Albertine Meunier, qui partage le même corps, ces deux personnes, est nette artiste. Elle partage donc la même corps et la même tête. Et qui Albertine Meunier, Catherine Ramus, qui réfléchit à cette question, l'identité en ligne. Cher Népote, vous êtes à côté d'Albertine Catherine.
Bonjour.
Bonjour, vous travaillez pour la FING, la Fondation Internet Nouvelle Génération, qui se présente comme un think tank, un lieu de réflexion spécialisé dans les questions posées par le réseau. Et pour la FING, vous dirigez le programme Identités Actives, qui est un programme émergent qui démarre, et on va en parler. Caroline Rivière, vous êtes là aussi autour de la table, vous êtes sociologue et vous avez participé au livre Second Life, un monde possible aux éditions des Petits Matins qui vient de paraître. Second Life, c'est donc ce monde parallèle qui existe depuis 2003 sur Internet et on peut vivre sa vie, sa seconde vie, c'est écrit là-dessus, c'est écrit dessus, comme le port salut. Et quand on parle d'identité sur le réseau, évoquer Second Life, on le fera, c'est assez incontournable.
Alors, la première question qu'on voulait vous poser, c'est une question toute simple et qui d'ailleurs qui fait totalement référence à ce dont on parlait dans l'actualité du web. En quoi la question de l'identité sur le net est aujourd'hui extrêmement importante? Alors, chers Népotes, puisque vous réfléchissez, vous êtes payé même pour réfléchir sur ces questions.
Alors le programme Identité Active démarre, donc on a encore plus, pour l'instant, plus de questions que de réponses à apporter. Cela dit, c'est vrai que l'identité en ligne, elle pose énormément de questions. C'est question de pseudonymat, enfin d'anonymat, de pseudo dont on parlait tout à l'heure. Mais il y a aussi bien d'autres questions que vous n'avez pas citées. Par exemple, la question de la portabilité, de l'interopérabilité des identités, c'est-à-dire comment j'utilise une identité que j'ai créée sur un réseau social, comment je l'utilise dans d'autres réseaux sociaux. Est-ce que je peux, par exemple, il y a des questions très intéressantes qui nous ont été posées par lors d'ateliers, qui étaient, est-ce que je peux avoir mon identité toujours sur moi, mon identité numérique toujours sur moi, dans ma poche?
Donc comme, c'est une clé USB, par exemple.
Ça peut être une clé USB, mais ça peut être aussi autre chose.
Ça peut être une puce sous la peau.
Pourquoi pas?
Ça peut être aussi une identité dans la tête toujours aussi.
Également.
Identité numérique dans sa tête.
Si tant est qu'on soit capable de définir sa propre identité dans sa tête.
Tout à fait.
Et puis il y a aussi d'autres questions, la question du masquage ou bien est-ce qu'il faut assumer son identité. Ça, je crois qu'Albertine a des choses à dire sur la question. Et puis les rapports également entre l'identité réelle et l'identité virtuelle. Là encore, c'est un champ d'exploration qui est très important.
On va ouvrir plusieurs pistes ce matin.
Oui,
effectivement,
voilà.
C'est autant de portes qu'on peut ouvrir. Mais la question, en reprenant juste la dernière brève dont on parlait à l'instant, la question du réseau social et de la guerre qu'on est en train de voir naître, guerre industrielle pour l'instant. Mais sous-entendu, il y a l'idée que le réseau social donc, pourrait être, c'est un schéma possible, la porte d'entrée sur Internet d'ici quelques mois ou quelques années. Ça signifie que l'identité devient et va devenir quelque chose de central dans tous les débats sur le réseau, Albertine Meunier.
Effectivement, d'ailleurs, la question de Open Social Google, on peut se poser la question de est-ce que Google va aussi lancer son Google Social Identité. En fait, est-ce qu'une personne dans cette Open Social, son réseau social, est-ce qu'elle-même, elle va pouvoir se définir et être présente de différentes manières dans tous ces réseaux. Enfin, ça pose aussi cette question-là, parce que c'est l'individu finalement qui est central dans ce réseau social.
Je crois que dans cette affaire, Google a un très très fort intérêt à l'ouverture. En fait, à chaque fois qu'un challenger essaye de détrôner quelqu'un qui est solidement installé, Facebook pour ne pas le nommer, il a plutôt intérêt à apporter un élément différenciant fort.
Ce que Facebook avait fait par rapport à MySpace, par
exactement,
exemple.
Exactement. Donc là, ce que peut apporter Google avec Open Social, et on le voit, c'est l'ouverture, justement. C'est une ouverture la plus forte possible, évidemment, tout en essayant de capter néanmoins tous les internautes. Alors comment est-ce qu'ils vont essayer de les capter? Moi, j'avais une idée, c'était le passage d'une ère de ce qu'on appelle le data lock-in, c'est-à-dire on vous garde en vous enfermant un petit peu parce que vos données, vous ne pouvez pas justement les exporter ailleurs, à une ère du service lock-in, c'est-à-dire vous restez chez Google, par exemple, parce que les services sont tellement bons que vous n'avez pas du tout envie de changer.
Et moi, ce que j'ai du mal à comprendre, quand on parle du passage d'un web centré sur la recherche, c'est sur le fait de chercher des données, un web centré sur la question de l'identité, ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros que, pour le dire très simplement, les gens n'ouvrent plus leur page, quand ils ouvrent Internet Explorer, ils tombent plus sur Google Search, mais ils tombent sur leur page Facebook. C'est ça ce que ça veut dire, juste en termes de premier acte.
Ça veut dire en pratique, le matin, moi, quand j'arrive dans mon ordinateur, je Google, j'ouvre Gmail, parce que c'est mon adresse mail, et puis j'ai pris l'habitude d'ouvrir en même temps tous les matins Facebook. Et donc j'utilise ces deux outils, aujourd'hui en tout cas, en parallèle.
Mais qu'est-ce que vous y regardez quand vous ouvrez votre page Facebook? Qu'est-ce que vous regardez?
Je regarde l'activité des autres, en fait.
L'actualité des autres?
L'activité. En fait, Facebook a lancé un service très fort, c'est de pouvoir suivre ce qu'on appelle le newsfeed, c'est-à-dire vous avez l'activité au fil des heures, en fait, de l'activité des autres. Donc je peux suivre ce que Charles fait, par exemple, il est devenu ami
avec quelqu'un,
ce qu'il dit, son statut.
Ce qu'il diffère.
Ou ce qu'on doit
dire. Ce qu'il
diffère,
oui, tout à fait. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est moteur, en fait, l'activité des autres va vous amener vers ce réseau-là, en tout cas, vers Facebook.
Albertine Meunier, vous avez la parole.
Et
oui. Albertine Meunier, vous êtes artiste net. Alors, sur Internet.
Net artiste.
Net artiste.
Ouais, je sais pas comment on appelle
artiste
ça.
Net artiste pas net. Vous savez ce que vous avez répondu à Yael Mandelboum quand elle vous a demandé comment on vous présente sur notre site
net
Internet.
Net artiste pas net. Ouais.
Voilà.
Ouais.
Qu'est-ce que vous faites comme artiste?
En fait, j'utilise le net, en fait, de plusieurs manières et en tant que matière. Donc, je vais réaliser des pièces où je vais utiliser le net comme une matière, comme la peinture ou comme un crayon. Donc, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est aussi d'utiliser le net comme un espace d'exposition et puis d'utiliser aussi le net comme un lieu où vous pouvez exister en tant que net artiste, en fait, finalement, parce que c'est quelque chose qui se crée, une réputation qui s'installe, les objets que vous faites. Donc, utiliser le net comme matière, je vais donner un simple exemple. J'ai réalisé une pièce qui s'appelle My Google Search History, donc qui rejoint un peu les deux sujets. Et en fait, je vais un peu à contrario du mouvement, c'est-à-dire quand vous faites des recherches sur Google, Google aujourd'hui annonce un service qui s'appelle Web History, où il historise toutes vos recherches, toutes vos navigations. Et donc vous avez.
Et c'est une empreinte qu'on laisse sur Internet, voilà. C'est une manière de se définir.
Donc vous avez votre parcours en fait.
Ce Google Search History que vous avez développé sur vous-même, il y a de l'image, on peut le voir sur votre site, mais il y a aussi du son.
31 octobre 2007, label 2007, Beloved et Net, CNRS synonyme, 30 octobre 2007, Left, label Camembert, eBay version mobile, eBay mobile bon média, eBay mobile, Uxage, Nokia 6680, ou 29 octobre 2007, Piqueo API, Mustang Plate, 26 octobre 2007, Radio Blog Club, Vidéum de Jar.
Alors Albertine, qu'est-ce qu'on entend là?
Là, on entend au fil des jours, en fait, les recherches que je fais sur Google. Donc ça, je fais ça depuis à peu près un an. Enfin, ça fait un an que je note toutes mes recherches, que je les scénarise avec des vidéos et des sons. Et en fait, ce parcours, finalement, c'est mon fil de vie. Enfin, parce que comme j'utilise Google quasiment tous les jours, on voit d'une part ce à quoi je m'intéresse, ce que je cherche, qui je suis. Donc ça peut...
Est-ce que vous vous censurez? Est-ce que c'est vraiment tout ce que vous
avez cherché? Oui, c'est vraiment tout. Donc c'est assez technique finalement. parce que finalement, j'utilise peut-être, pour des choses personnelles, j'utilise d'autres outils.
Ah oui, voilà le truc. Mais et cette voix, d'où vient-elle? Comment vous l'avez développée?
Alors cette voix, c'est une voix que France Télécom met à disposition. C'est un outil de vocalisation, en fait. Donc c'est un simple outil ouvert où vous tapez vos textes et puis vous avez une vocalisation toute simple.
Et Albertine Meunier, alors? Expliquez-nous Albertine Meunier, parce que quand on tape Albertine Meunier, c'est pas du tout votre visage qui apparaît.
Alors déjà, quand on tape dans Google Albertine Meunier, on va avoir une réponse assez immédiate, parce qu'on a déjà la dualité Albertine-Catherine. On va très vite savoir que c'est Albertine Meunier, c'est plus ou moins Catherine.
C'est l'intitulé du site, Catherine Ramus égale Albertine Meunier.
Égale plus ou moins.
Voilà.
Égale plus ou moins Albertine Meunier.
Et Catherine Ramus, c'est votre vrai patronyme.
Voilà, c'est mon vrai nom. Et donc, quelle était la question?
Qui est Albertine Meunier?
Ah bah Albertine,
parce qu'on parle de la question de l'identité.
Ouais.
Donc voilà, vous avez choisi de vous représenter sous une forme qui n'est pas la vôtre,
puisque
Albertine Meunier est une vieille dame, vous n'êtes pas une vieille dame.
Ouais. Parce que vous aviez fait référence à votre page Facebook où quand on cherche Albertine Meunier, on vous trouve, mais la photo qui apparaît est la photo d'une dame.
Ouais, c'est la photo d'Albertine en fait. Donc c'est la photo d'Albertine, que j'ai définie comme étant le visage d'Albertine Meunier.
On est à deux doigts de la schizophrénie quand même.
Bah, c'est ce qu'on appelle la schizophrénie du web en fait. Ces nouvelles maladies.
Et qu'est-ce qu'elle a comme existence, Albertine Meunier?
Comme existence physique, dans le monde réel ou dans son monde? Ah bah, en fait, ce qui est étonnant, c'est qu'Albertine Meunier, en fait, c'est au départ, c'est une identité en ligne, donc qui me sert d'expression artistique. Et puis, quelque part, elle m'habite, elle est vraiment dans ma tête. C'est pour ça que j'ai parlé d'identité, d'identité numérique dans la tête. Parce que finalement, moi, le monde réel virtuel, finalement, les deux s'alimentent. Enfin, je ne sais pas qui alimente l'autre, mais Albertine Meunier est numérique, mais ça fait partie de ma vie.
Vous participez à des rencontres Internet, des rencontres sur des gens qui pensent au réseau, qui réfléchissent à ça, ce que vous faites aussi. Et dans ces endroits-là, on vous appelle comment?
Albertine Meunier.
Et donc dans le monde réel?
Oui, dans le monde réel. Donc en fait, elle est devenue vivante. C'est pour ça que dans ma tête, elle existe en tant que telle maintenant. Parce que alors, de mes actions et de la manière dont je me présentais, finalement, elle est devenue vivante et reconnue comme ça. Donc c'est vrai qu'on m'appelle Albertine.
Oui, quand je parle de toi, je parle d'Albertine.
On parle d'Albertine.
Et cette pauvre vieille dame dont la photo donc, s'affiche sur le net au nom d'Albertine Meunier, alors qu'elle s'appelle sans doute pas Albertine Meunier. Vous lui avez volé.
Je pense qu'elle s'appelle Simone, parce que les photos d'Albertine ne me plaisaient pas dans Google et j'avais tapé Simone, je pense.
Mais elle a une identité, cette dame, en dehors de cette existence-là.
Ouais,
elle existe,
pense,
et elle n'a peut-être pas envie d'être une nette artiste.
Ben, je pense qu'on peut aller à sa recherche. Hein. Je pense que je peux aussi aller la rencontrer.
Et ce sera une œuvre signée Albertine Meunier.
Ouais. Mais c'est une performance en tant que telle, en fait, hein, d'être Albertine. Et d'avoir de s'approprier ce visage, finalement, qui n'est pas le sien. Quoi.
Toute cette discussion, elle illustre bien le fait qu'on démarre des questionnements sur ces problèmes d'identité. Hein. Et c'est pas innocent que ce soit des artistes qui commencent par réfléchir à ces problèmes-là et à prendre des risques, puisque finalement, Albertine prend un petit peu un risque en utilisant la photo de quelqu'un d'autre, mais un risque, je pense, qui est assumé, puis un risque d'un artiste, pas d'une entreprise. Je pense... Pas contrôlé, mais en tout cas, un artiste, il ne prend pas des risques.
La question n'est pas sur l'utilisation de la photo, parce que ça peut se régler facilement. Après, c'est plus... c'est le nom, finalement. Ce n'est pas tant la photo que je retiens, moi, de tout ça. C'est le nom Albertine Meunier. Enfin, je vais prendre un exemple tout simple. Hein, l'autre jour, j'ai tapé Albertine Meunier, parce que, comme tout le monde, je fais de l'ego surfing ou l'ego searching.
Oui, l'ego surfing, ça consiste à taper son propre nom sur un moteur de recherche type Google et de voir ce qui apparaît.
Voilà, et en brosant, au bout de 4 ou 5 pages, je suis tombée sur un acte de décès d'Albertine Meunier, d'une dame qui s'appelait Albertine Meunier.
Donc vous êtes morte.
Donc voilà, ça m'a fait un petit coup au cœur.
Et est-ce que, la question que je me pose, Charles Népote, c'est est-ce que ce que nous raconte là Albertine Meunier n'est pas la version, disons, dorée, intellectuelle, admissible de ce qui se passe par ailleurs autour de la question de l'identité, qui peut être beaucoup plus cynique. Vous parliez tout à l'heure de la question des marques, de la question du traçage, de la question... Parce que finalement, les questions qui sont émises là, on pourrait tout à fait les retourner et voir comment ça peut être utilisé, tout ça. Alors, Là, ça devient beaucoup plus problématique.
Alors oui, ce sont des vraies questions, c'est important. Cela dit, il ne faut pas non plus avoir une vision complètement paranoïaque du web et des choses. Justement, tout notre travail dans le programme Identité Active à la FING, c'est bien sûr de ne pas éluder complètement ces questions qui sont importantes, mais c'est surtout aussi de mettre en valeur les opportunités que représente l'identité numérique.
C'est quoi ces opportunités ?
Ces opportunités, elles sont extrêmement nombreuses. Dans l'usage des avatars, par exemple, il y a des opportunités de simulation, de créativité, de marque, d'identité visuelle, de libération de soi. Par exemple, quand on utilise un avatar, les stigmates qu'on pourrait avoir disparaissent. On peut faire disparaître ses propres stigmates, on peut avoir un sentiment de maîtrise de soi. Aussi, surtout, ils peuvent servir à l'expression d'autres aspects de son identité.
On y viendra à la question des avatars, mais l'avatar, c'est autre chose. C'est-à-dire que l'avatar, c'est vous décidez d'apparaître dans Second Life, par exemple, vous choisissez un personnage. C'est bien différent de quelqu'un qui est un simple usager du réseau et donc qui entre dans un site où il faut s'identifier, son nom, son adresse, voire son numéro de carte bleue, ailleurs son profil d'âge, de passion, etc. Là, on est dans la question d'une vraie identité qui est démultipliée sur le réseau. On n'est pas dans le cas où on se choisit volontairement une identité.
Alors sur cette question-là, cher Népote, vous avez travaillé dans la banque dans une autre vie.
Oui,
et
tout à fait.
Donc ces questions de traçabilité des données et de croisement de données, de fichage, vous les avez déjà vues.
Oui, alors on fantasme beaucoup aussi sur le fait que toutes les grandes entreprises nous tracent et nous suivent à la seconde près. Bon, finalement, par rapport à la richesse d'une vie, par rapport à la richesse du vécu d'un individu, les traces qui sont possédées par tel ou tel organisme sont finalement assez moindres. Facebook va peut-être beaucoup plus loin, justement, en traçant l'activité des gens au jour le jour. Et c'est pas si innocent que ça. Et d'ailleurs, il y a de nombreuses interrogations de la part de certains chercheurs ou artistes, etc., à propos de Facebook sur cet aspect-là des choses.
C'est exactement ce dont on parlait, avec la possibilité pour les annonceurs, du coup, de publiciser, disons, à partir de ces activités. Typiquement, quelqu'un raconte sur sa page Facebook qu'il rentre, je ne sais pas, de Bolivie, et vous avez toutes les agences de voyage d'Amérique latine qui vont, comme ça, balancer à lui et à ses amis des offres pour repartir dans les pays d'Amérique. Là, on est quand même dans des activités
C'est que ça démultiplie. C'est vrai que Google, par exemple, faisait la même chose avec Gmail, mais ça s'adresse à soi. Quand il va mettre une publicité en face de votre mail, c'était que pour vous. Là, c'est vrai que ça aide vous. Et puis, tout votre réseau, donc ça fait écho.
À votre sens, on fantasme ça.
Alors, on fantasme, évidemment, on a des traces qui sont nombreuses et variées et à divers endroits. Mais il ne faut pas croire non plus qu'on est fiché à vie. Déjà, bon, par exemple, en droit français, il y a un encadrement qui est très fort de l'usage des données personnelles. Évidemment, les services américains, par exemple, posent des problèmes. Quand je vais sur Facebook, qu'est-ce qui se passe ? Il y a d'ailleurs un gros débat en ce moment sur l'usage des données sur Facebook. Les conditions générales
ont été traduites en français.
Voilà, ont été traduites en français. Et on voit que les conditions générales d'utilisation de Facebook vont très très loin. En fait, grosso modo, ils vous disent que ces données-là, sont leur propriété, qu'elles le sont à vie. Et d'ailleurs, même si vous supprimez votre compte, Facebook conservera ces données-là.
Ce que vous dites, c'est que, en disant fantasmons pas sur cette traçabilité et ce fichage, on peut être reconnu sur Internet du fait d'avoir laissé des données à droite à gauche. On peut nous envoyer des publicités un peu personnalisées, un peu ciblées, mais on n'est pas forcément suivi, en fait. C'est ça que vous voulez dire.
Non, on n'est pas forcément suivi.
On n'est pas forcément si intéressant. Enfin, souvent, les gens disent ça, finalement, qu'on me cherche, finalement, qu'est-ce que j'ai de plus à dire ou de moins ? Il faut vraiment avoir un acte volontaire pour connaître quelqu'un. Enfin, faut fouiller, faut explorer.
Ça va assez vite. Hein. Vous mettez un nom et vous retrouvez une mention dans un article qui a 8 ans. Vous trouvez quand même. C'est vrai que vous arrivez. Non, mais en tant que journaliste, c'est assez intéressant parce que, par exemple, ce qui vous arrive, c'est d'aller interviewer quelqu'un qui a googlisé votre nom. Mm-hmm. Et donc, vous arrivez pour l'interviewer, c'est lui qui vous connaît mieux.
Ouais, tout à fait.
Donc, ça, c'est quand même une inversion du rapport entre le journaliste et l'interviewé.
Sur l'identité numérique et cette idée de l'avoir sur un support, ce que vous disiez au début de cette discussion, Charles Népote, certaines personnes imaginent imagine qu'il faudrait que l'identité numérique, c'est-à-dire nom, prénom, numéro de carte bleue, effectivement, toutes les données personnelles soient détenues par des tiers dont c'est le métier. Est-ce qu'on imagine ça, par exemple, qu'une banque dise, voilà, c'est moi qui vais avoir votre identité numérique et en fonction des recherches que vous ferez et des besoins que vous aurez, vous autoriserez à donner le nom, le prénom, ou le nom, le prénom, le numéro de carte bleue, ou le nom, le prénom, la date de naissance, oui. Le numéro de carte bleue, etc. C'est un schéma imaginable ?
Oui, c'est un schéma imaginable. Alors, je ne dis pas qu'il le faut. Là encore, les usages, ils vont se construire quand même. Tout ça ne va pas se construire immédiatement. Je pense que le problème de l'identité est un problème tellement vaste. Enfin, la question de l'identité est tellement vaste que tous ces usages-là vont se construire progressivement. Alors à nous d'essayer d'identifier effectivement d'abord les bonnes questions à se poser, ensuite et de voir les opportunités de réponse qui s'offrent à nous.
Et c'est ça les identités actives dont vous parlez ?
Alors nous, le terme actif, il traduit la capacité, enfin l'espérance de pouvoir gérer activement ses identités. Et donc cette gestion des identités, cette gestion active des identités, elle s'applique aussi bien pour les individus, donc c'est une richesse pour les individus, mais c'est également une opportunité pour les entreprises pour offrir des services allant vers la gestion active et la gestion maîtrisée de ces identités.
Est-ce que la CNIL, est-ce que la France, à travers la CNIL ou la loi informatique et liberté de 78, a pris un temps d'avance sur ces questions-là ?
Alors, on ne peut pas dire qu'elle a pris un temps d'avance. Alors, si, elle a un temps d'avance, mais elle a fait un choix culturel qui est quand même un choix assez fort, qui n'est pas le choix d'autres pays, notamment d'autres pays européens, comme la Belgique, par exemple. Bon, cela dit, est-ce que c'est un choix qui est un bon choix ?
Est-ce que c'est un choix qui va de quel côté ? De plus grande protection ?
C'est un choix qui va évidemment du côté de la protection forte des utilisateurs, mais c'est aussi un choix qui, vu par exemple sous l'angle anglo-saxon, est un choix qui peut-être peut freiner un petit peu des opportunités de service. Donc ça, là encore, c'est encore beaucoup de questionnements et pas forcément des réponses encore très tranchées.
Albertine Meunier.
Moi, je voulais dire que l'identité, enfin, quand on parle d'identité numérique, ce n'est pas que ses coordonnées, son nom, son prénom, son email, son numéro de banque.
C'est quoi d'autre ?
C'est aussi tout ce que je dis sur Internet via des blogs, des commentaires ou ses posts. C'est aussi les photos que je publie. C'est les réseaux sociaux dans lesquels je suis, c'est les achats que je fais sur eBay, je suis bon vendeur, pas bon vendeur. C'est tout cet écosystème-là, en fait, qui va constituer votre réputation ou l'ensemble des traces. Donc les traces, finalement, avec l'ensemble des services web, elles se sont totalement démultipliées. C'est plus que vos coordonnées et puis le livre que vous avez écrit.
Des traces vraies et des traces fausses.